C'est vraiment très beau ce qui se passe ici. Sûrement que Jésus est très content et qu'il doit être consolé de votre, du parfum que vous venez répandre en l'adorant. Pour ma part, c'est suite à un grave accident de ski que j'ai été immobilisée pendant plusieurs années, ne pouvant plus rien faire. Et Jésus s'est servi de cette épreuve pour m'amener à une vie d'adoration. Parce que j'étais complètement rétamée, je pouvais absolument plus. J'étais devenue une loque, humainement, physiquement. Et je suis restée 3 ans et demi avec un os du crâne de travers avant qu'on pose le bon diagnostic. Mais comme tout concourt au bien de ceux qui essayent de suivre Jésus, c'est magnifique de voir comment, même d'une situation dramatique, il peut tirer un plus grand bien. Et en fait, je peux dire que j'ai été consolée par les martyrs. Pendant les 3 premières années, avant où je suis allée de médecin en médecin, sans savoir la gravité de ce que j'avais, j'ai été comme habitée par l'intuition que si peut-être je tenais encore dans cette épreuve, c'était parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient persécutés, qui offraient leur souffrance à Jésus, mais que réciproquement, Jésus avait aussi besoin de ma fidélité pour eux. Et c'était dans les années 70, à ce moment-là, je savais à peine qu'il y avait en Europe de l'Est des chrétiens qui étaient très persécutés par le régime soviétique à cause de leur foi. J'étais beaucoup plus tournée vers l'Amérique latine et donc il n'y a rien qui pouvait influencer mon subconscient, alors que j'entendais parfois « vis tout en communion avec les chrétiens des pays de l'Est ». Et plus c'était dur pour moi, mon état physique, plus cela s'intensifiait et c'est comme si j'ai découvert le splendide trésor de la communion des saints de l'intérieur. Mais à ce moment-là, j'imaginais pas que Jésus allait me confirmer par des signes concrets cette réalité de la communion des saints. Et un jour où c'était pire que d'habitude, ah oui, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était une parole de saint François d'Assise. Si nous savions adorer, rien ne pourrait vraiment nous troubler. Nous traverserions le monde avec la tranquillité des grands fleuves. Et je me disais, mais de toute façon, même si je meurs avant qu'on ait trouvé ce que j'ai, c'est pas grave, puisque Jésus, lui, sait. Donc, il a ses raisons que je passe par là. Et voilà qu'un jour où vraiment j'en pouvais plus, et c'était plus fort que d'habitude, j'avais en moi comme imprimé ces mots « pour les chrétiens de l'Est, pour les chrétiens de l'Est ». Et ce matin-là, je reçois du courrier, sur l'enveloppe, c'était imprimé « chrétiens de l'Est ». Alors vraiment, j'étais bouleversée, je me suis dit « alors c'est vrai, c'est pas une idée ». Et c'était une circulaire de l'aide à l'Église en détresse, dont à l'époque je ne connaissais pas l'existence. Mais c'était complètement providentiel et ce n'était que le début d'une longue histoire qui n'est pas finie. Mais 15 jours après, j'ai reçu la visite d'un permanent de Thésée, parce que je fréquentais beaucoup Thésée avant mon accident, et il ne me parle que de la communion des saints, sans savoir ce que je vivais. Alors du coup, je lui dis ce que je viens de vous dire, comment depuis que j'étais handicapée, sans comprendre, j'avais comme cette perception d'être particulièrement proche des chrétiens qui souffraient dans les goulags et en Sibérie et partout. Et il me dit, tu sais, c'est pas étonnant, dans le corps du Christ, on est tous reliés les uns aux autres, même avec des gens qu'on ne connaîtra qu'au ciel. Et il me partage qu'il revenait de Hongrie, parce qu'à l'époque, les frères de Thésée envoyaient des jeunes deux par deux pour consoler les chrétiens, les encourager en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne. Et il me dit, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Elisabeth, qui est continuellement suivie par la police secrète, uniquement parce qu'elle est chrétienne, et elle n'en peut plus, mais elle a un très grand rayonnement, et si tu veux, je te demande de prier fort pour elle, ça donnera encore plus de sens à cet appel qui t'habite. Et les semaines passent, et sans savoir plus de détails, je me mets vraiment à prier pour Elisabeth. Mais un jour où un médecin a trouvé et s'est rendu compte de la gravité des erreurs médicales qui m'avaient mis dans cet état. Et je pensais que du moment qu'on avait trouvé que j'étais en mode main, j'allais être guérie dans 8 jours. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence que je resterais handicapée. Et donc, c'était tellement grave que même les conséquences au niveau des bilans de sang, le chercheur qui m'a soignée n'avait vu que 2 autres cas comme ça, ils étaient morts. Donc depuis 1976, cliniquement, je suis morte. Et même si on me fait des bilans de sang encore maintenant, ils ont peur. Donc on n'en fait plus parce que ce n'est pas la peine. Je suis obligée de les rassurer en leur disant que ma vie est dans la main de Dieu. Et donc, quand j'ai réalisé que je resterais handicapée, j'ai dit à Jésus, « Bon, ton histoire avec les pays de l'Est, c'est joli. Tu m'as donné des signes que c'était vrai sans que je t'en demande. » Alors tu peux faire ce que tu veux avec ma vie, mais si tu veux que je reste encore longtemps dans un état pareil, peut-être que si tu me redonnais un autre signe de temps en temps, ça ferait pas de mal pour tenir. Vous voyez, c'était un peu le cri de Job, c'était pas une prière très glorieuse, mais voilà, la pauvreté. Mais j'imaginais pas à quel point Jésus prend nos prières au sérieux. Et le lendemain matin, j'avais la réponse dans ma boîte à lettres, et c'était cette Hongroise, Elisabeth, qui était venue clandestinement à Thésée, et notre ami commun lui avait donc dit ce que je vivais et que je priais pour elle depuis un certain temps. Alors elle a demandé à m'écrire avant de repartir, parce qu'une fois rentrée dans son pays, à l'époque c'était un pays prison, et son courrier était surveillé. Et donc, providentiellement, j'ai reçu sa lettre le lendemain où j'avais demandé un petit signe. Et c'était plutôt un gros signe, parce que c'était une épître, une véritable épître, sur la communion des saints, digne d'une épître de saint Paul, où elle disait entre autres, « Nous avons reçu une passion pour le Christ, et c'est là qu'est notre communion. » Et bon, et le Seigneur m'a donné d'autres signes, de mois en mois, d'étape en étape, m'a mis en communion avec d'autres personnes, en Tchécoslovaquie, en Pologne, et pour m'aider à tenir, mais beaucoup plus que ça. Parce qu'il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas que je m'occupe de ma peau, mais que j'entre dans cette dimension d'offrande cachée. Et comme il disait à Catherine de Sienne, occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Et alors, vraiment, c'est magnifique parce qu'il n'y a pas de fardeau plus lourd qu'on ne peut porter, puisque c'est son fardeau à lui, il est léger. Et même si j'ai eu des moments où j'ai eu des grosses tentations de révolte et tout, mais après, à chaque fois, il m'a donné justement ce que j'avais besoin pour tenir et toujours cette consolation par les martyrs, parce que moi, c'était rien à côté de ce qu'eux, ils enduraient. Et eux, c'était vraiment directement à cause de Jésus. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que l'Esprit-Saint me préparait, en fait. Ça a duré à peu près 7 ans, à franchir un jour ce qu'on appelait le rideau de fer, qui coupait l'Europe en deux, et à aller rencontrer ces personnes. On m'aurait dit ça, j'aurais éclaté de rire, parce que dans l'état où j'étais, il n'y avait pas de quoi imaginer un coup pareil. Mais ils nous préparent par d'humbles commencements, sans qu'on sache. Et voilà qu'en 80, Jésus m'a remise debout à Paray-le-Monial. La personne qui m'avait emmenée est ici présente dans l'assemblée. Et j'étais en fauteuil roulant. On avait mis 2 jours pour faire le voyage parce que je ne supportais pas du tout les secousses et tout. Et lors de cette session, en juillet 80, le Seigneur m'a mis sur le cœur de ne pas lui demander ma guérison, mais de demander justement un plus grand amour pour son Église et une grâce d'offrande inconditionnelle. C'était un petit combat parce que je voyais des gens devant moi qui étaient guéris au milieu de la semaine. Et puis le dernier jour, à la messe de clôture, je ne peux même pas traduire avec des mots ce que Jésus a pu faire dans mon cœur, mais c'était par l'Eucharistie. Au moment de la consécration, j'étais comme aimantée par l'hostie, comme fascinée et tellement fort que je me suis levée de mon fauteuil roulant. Je pouvais me lever toute seule, je pouvais faire quelques pas. Mais là, j'ai été comme aimantée et plaquée au sol. Je me suis retrouvée à genoux et j'ai eu quelque chose de très très fort qui s'est passé ensuite au moment de la communion. Quand j'ai reçu le corps de Jésus en moi, j'ai senti un déclic dans mes vertèbres cervicales Alors, évidemment, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Mais simultanément, une parole m'a habitée, comme si Jésus me disait, ne t'occupe pas de ça, ça ne te regarde pas, ce que je suis en train de faire. C'est pas une guérison. Tu seras jamais guéri complètement, mais je vais te redonner de quoi être moins limité pour une œuvre spirituelle que tu n'entrevois pas encore. Et de fait, un an après, je suis partie à Rome et j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui venaient des pays de l'Est et qui vivaient des choses vraiment dramatiques. Et puis, mon amie Elisabeth m'a supplié de venir la visiter en Hongrie. Et en 84, donc c'est pour ça que Jésus m'avait remis debout, mais il m'a donné juste de quoi tenir debout. Si vous venez me donner une poignée de main et que vous me secouez un peu fort, je suis des heures à m'en remettre. Mais il nous donne toujours de quoi faire ce qu'il veut qu'on fasse pour sa gloire. Et alors en 84, contre tout, ça dépassait l'entendement, donc je suis partie en Hongrie avec un séminariste et une sœur. Et nous avons découvert ce que c'était que vraiment suivre Jésus jusqu'au bout de l'amour et découvert des êtres qui étaient comme des vraies icônes de la miséricorde. Alors eux, l'adoration, ils la vivaient cachée. Par exemple, 3 mois après, je suis allée en Tchécoslovaquie. Je ne vous donne pas tous les détails, ce serait trop long. Mais en Tchécoslovaquie, où c'était encore pire qu'en Hongrie, et il fallait apprendre par cœur les adresses des gens pour aller chez eux, parce que si on était fouillé au passage, il ne fallait pas qu'on trouve les adresses, c'était trop dangereux. Eux, ils étaient surveillés continuellement. Et alors, ce qui est inoubliable, c'est une messe dans une cave avec des franciscains et des sœurs franciscaines dont les prêtres sortaient de prison. Ils avaient encore les marques des coups qu'ils avaient reçus sur la tête. Et en 5 minutes, on est descendu dans une cave. En réalité, c'était une chapelle clandestine. Et la pendule qui était au mur, c'était le tabernacle. Et voilà, ils adoraient Jésus dans une pendule. Et cette messe, c'était inoubliable. Et vraiment, après, j'ai eu la grâce d'aller visiter Silvo, un médecin de Bratislava qui avait fait 15 ans de prison. On m'avait demandé de prier pour lui depuis 7 ans et j'aurais jamais pensé aller chez lui un jour. En fait, nous sommes tombés à genoux devant lui parce que pour lui demander pardon, chacun pour notre propre tiédeur, sachant ce qu'il avait vécu. Et aussi au nom de toute l'Église, parce que nous, à l'Ouest, qu'est-ce que nous faisions pendant qu'il était torturé par la police secrète? Mais alors, ce qui était bouleversant, c'est ce rayonnement de la miséricorde. C'est que Silvo ne nous a pas parlé de ce qu'il avait enduré. Il n'avait qu'un souci, c'était les âmes de ses bourreaux. Et avec les larmes aux yeux, il nous disait de prier pour eux, parce qu'il venait d'apprendre que l'un d'eux s'était suicidé. Et là, c'était vraiment... moi, j'ai pris des leçons, quoi. Parce que là, nous, pour une petite crasse qu'on nous fait, on a du mal à s'en remettre pendant 15 jours. Et là, torturés et tout, et pas... Et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient vécu des choses de cet ordre-là, je n'ai jamais vu aucune rancœur, aucune amertume, seulement le désir de sauver les âmes de leurs bourreaux. Alors là, vraiment, on ne peut pas en revenir comme on est parti. Mais ne vous dites pas, ah ben oui, ce qu'elle nous dit, donc c'est bien, c'est super, mais moi j'ai telle épreuve, moi je vis autre chose. Non, ça nous concerne tous, ce splendide trésor de la communion des saints. Parce que même si aujourd'hui le rideau de fer est tombé en Europe centrale, mais il y a encore en Corée du Nord, il serait 50 000 chrétiens dans les camps de travaux forcés. Et ils ont aussi besoin de notre prière et de notre consolation. Et quand vous êtes à l'adoration ici dans l'oratoire, vous ne pouvez pas imaginer ce que Jésus vous donne de rayonner dans l'invisible du royaume. Peut-être des fois vous avez un combat, c'est normal, on en a tous. Surtout que le malin n'aime pas qu'on soit là, bien sûr, c'est pas rentable pour lui. Alors, il nous embête, quoi, ou il nous donne de la sécheresse et tout ça. Mais peu importe, peut-être à cette occasion, il y a un Chinois dans une prison que Jésus va consoler en se servant du parfum que vous répandez sur son corps à ce moment-là. Et vous ne serez qu'au ciel, mais j'espère que des fois, il peut vous en donner aussi un échantillon. C'est toujours pour nous encourager, pour nous emmener plus loin dans l'offrande cachée et nous montrer que c'est vrai. Bon, ben, en ce moment, il y a nos frères et sœurs d'Irak et de tous les pays du Nigeria et tout. Il y a ce que nous venons de vivre depuis une semaine. Et donc, Jésus veut sûrement nous emmener plus loin. Sans doute, il va demander à certains d'entre vous peut-être de doubler les heures d'adoration, par exemple, pour ceux qui sont retraités. Et puis, bon, là, il y a une urgence. Vous savez sûrement l'histoire de Sainte-Claire, hein. Sainte-Claire, les Sarrasins, donc c'était les musulmans, les djihadistes de l'époque, avaient franchi les murs du couvent, du petit couvent de Saint-Damien. Donc c'était sans espoir. Les sœurs étaient terrorisées, sont venues chercher Sainte-Claire qui était malade et qui ne tenait pas debout. Elle s'est fait conduite devant eux avec Jésus, avec le Saint-Sacrement. Eh bien, ils ont repassé le mur de l'autre côté à toute vitesse. Et ce n'est pas de la légende, j'ai vérifié dans la vie de Sainte-Claire, dans les dépositions pour la canonisation, les sœurs ont témoigné de ce fait. Et même Thomas de Celano, l'historien de Saint-François, il était à Assise ce jour-là. Et il a dit que si la ville d'Assise n'a pas été prise, c'est à cause que Jésus les a chassés par le courage et l'audace de Sainte-Claire qui est venue avec lui. Alors aujourd'hui, votre présence devant Jésus, nuit et jour, elle peut contribuer à arrêter les terroristes. Et oui, voilà. Donc c'est le moment d'intensifier. Bien sûr, une mère de famille qui a ses légumes à éplucher ne peut pas forcément venir faire une heure de plus. Alors il ne faut surtout pas se culpabiliser, parce qu'il y a aussi d'autres façons d'intensifier l'adoration. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite bienheureuse que Jean-Paul II a canonisée en 96, Alexandrina da Costa, du Portugal. Elle était un peu comme Marthe Robin, paralysée, ne pouvant plus manger ni boire. Et elle n'avait pas la grâce d'avoir la présence eucharistique dans sa maison, mais Jésus lui a dit, elle était paralysée, et Jésus lui a dit, « Je veux que tu te transportes en esprit à tous les tabernacles du monde où je suis enfermée et où on m'oublie. » C'était une de ses missions. Alors, si vous ne pouvez pas venir faire une demi-heure ou une heure de plus, ce sera aussi important qu'en faisant ce que vous avez à faire par amour, vous soyez sûr que Jésus, il va s'en servir. Ça va être plus fort que des bombes pour enrayer le terrorisme. C'est les plus grandes bombes d'amour. Et là, nous avons vraiment une responsabilité très forte. En ce moment, nos cœurs doivent être vraiment dans la repentance. Tout à l'heure, j'ai été frappée par une prière, justement, où on parlait de la repentance. Et tout à l'heure, non, avant-hier, en priant dans votre oratoire, quand j'ai demandé une parole à Jésus, il m'a donné le bon larron. Alors, j'étais un peu étonnée parce que je pensais plutôt... moi, j'avais un peu sur le cœur, mais ça ne se contredit pas. L'onction de Béthanie, qui est un peu un de mes textes fondateurs dans ma vocation, parce que l'onction de Béthanie, c'est aussi quand Marie a débarqué avec son parfum, c'était le fruit de sa repentance. Et nous, on est tous comme Marie-Madeleine, hein, plus ou moins, mais on est tous des rescapés de la miséricorde, sans arrêt. Et donc... la vraie attitude quand on arrive devant Jésus, c'est l'attitude de vérité, c'est la repentance, quoi. Et alors le bon larron, ben, c'est le plus grand des adorateurs, c'est le premier des adorateurs, puisqu'il était le plus près de Jésus pendant son agonie, pendant que Jésus versait son sang pour nous sauver. Il a tout vu de près, mais bon, attention, ne nous mettons pas nous-mêmes trop vite du côté du bon larron. Depuis 15 jours, quand je priais... un peu en vue de ce soir, et puis à travers des événements que je vivais, Jésus il m'a fait le coup de me montrer tous les côtés de mauvais larrons qui étaient en moi et qui voulaient que je lui apporte. Quand il nous montre ce qui ne va pas, c'est pas pour nous accabler, hein, c'est parce qu'il veut nous délivrer, c'est pas comme l'accusateur d'en bas qui lui nous dit « Ah, regarde comment que t'es, tout ça ». Non, Jésus, il veut nous délivrer, c'est tellement sa joie de nous pardonner qu'il nous, de temps en temps, il faut qu'on le laisse nous mettre le doigt sur ce qui ne va pas trop bien là et qui contrise son cœur pour qu'on court lui le donner. Et là, il y a vraiment un coup d'éclat, quoi, du triomphe de sa miséricorde. C'est pareil, ça peut rejaillir jusqu'au bout de la terre. Alors, je ne sais pas si vous savez que Jean-Paul II, Lors de son dernier voyage en Pologne, en 2002, le 17 août, il a consacré le sanctuaire de la Divine Miséricorde à Cracovie, mais il en a profité pour consacrer le monde entier à la Divine Miséricorde. Qui c'est qui savait ça? Levez le doigt. Il n'y a pas grand monde. Hein. Alors que c'est très très important, nous avons chacun été consacrés ce jour-là par Jean-Paul II à la Divine Miséricorde, mais pas seulement nous, hein, les terroristes, la France, le gouvernement, toute l'Europe, le monde entier. Alors, il y a un enjeu. Mais pourtant, au moment de cette consécration, Jean-Paul II, il a une prière très très forte, c'était une supplication. Je veux confier solennellement le monde à la Divine Miséricorde. Je le fais avec le désir que le message de l'amour miséricordieux de Dieu, proclamé ici à travers Sainte Faustine, atteigne tous les habitants de la terre et remplisse leur cœur d'espérance. Mais oui, mais cette prière, elle n'est pas exaucée hein, aujourd'hui. Sinon, le monde ne serait pas dans l'état où il est. Alors, ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de chacun de nous. Les saints, Jésus a dit à Faustine, quand tu seras au ciel, tu continueras ta mission d'être apôtre de ma miséricorde. Et les saints, au ciel, donc ils continuent leur mission et même elle est déployée. Mais Jésus a aussi besoin de nous pour que nous participions à ce déploiement. Alors c'est comme s'il envoie Jean-Paul II nous embaucher, spécialement ce soir, chacun dans son état de vie, dans la situation où il est, avec les souffrances cachées qu'il porte. Jésus nous embauche par Jean-Paul II pour que nous contribuions à accélérer le triomphe de sa miséricorde sur le monde, pour que chaque être humain de la terre puisse faire l'expérience de sa miséricorde. Et vraiment, un jour où j'étais, le démon a essayé de me décourager de mes chutes et de mes rechutes dans des trucs que je n'arrive pas à offrir, eh bien, Jésus m'a dit, mais si tu reviens à chaque fois que tu chutes comme un petit enfant, eh bien, à chaque fois, tu appelles ma miséricorde sur le monde entier, tu te glisses dans cette prière de Jean-Paul II, et ça rejaillit sur des multitudes. Et vous savez, la petite Thérèse, elle disait, quand elle était tellement bouleversée de voir le sang de Jésus qui coulait, et puis il y a tellement peu de gens qui en profitent finalement, alors elle a dit, je voudrais me tenir en esprit au pied de la croix pour qu'aucune goutte de son sang ne soit perdue. Et en fait, c'est ça, ça revient à ça. Alors que même quand nous voyons notre misère et tout, au lieu d'en faire un plat, eh ben de nous réjouir que Jésus va encore nous pardonner et qu'au moment où le prêtre nous donne son pardon, nous pouvons en même temps lui demander « Jésus, tu me laves dans ton sang, mais en même temps, eh ben, fais rejaillir ton sang jusqu'au bout de la terre, fais couler ton sang pour le triomphe de ta miséricorde. » Et voilà, c'est vraiment dans l'urgence des temps que nous vivons. Jean-Paul II, il a amorcé quelque chose pendant son pontificat. Il y a un fil conducteur, vous voyez. Le pape François, il a reçu l'intuition du Saint-Esprit de lancer cette année de la miséricorde. Et c'est vraiment... ça va être magnifique. Nous allons être témoins de merveilles. Certainement, il va y avoir des conversions. Il va y en avoir plein. Certainement, sur cette paroisse, Jésus, il a un plan magnifique et que des gens sont déjà attirés, mais encore plus vont être attirés. Sûrement qu'il y en a que... Rien que de rencontrer des membres d'entre vous, ils se sentent aimés et ils se disent « Mais il faut que j'aille là, il y a un coin de ciel, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. » Et partout, dans tous les endroits où il y a l'adoration et où va y avoir plus encore d'adoration, parce que le bon Dieu est en train de mettre tout le monde à genoux, il paraît qu'il y a bien plus de monde dans les églises à Paris en ce moment. Donc voilà, c'est triste qu'on soit obligé d'en arriver là pour revenir, mais bon... Voilà, il va s'en servir. C'est magnifique. Nous allons ensemble nous réjouir de cette repentance qui va couler sur le monde. Et le bon larron, il doit drôlement intercéder avec Marie-Madeleine et compagnie, Jean-Paul II, pour ce triomphe de la miséricorde et de l'Eucharistie sur le monde. En 94, j'ai eu la grâce de faire une retraite avec un évêque slovaque qui était un grand ami de Jean-Paul II, il était même son conseiller secret sous le communisme pour les pays de l'Est. Et il a dit, qu'est-ce que ça va être le triomphe du cœur immaculé de Marie? Et c'est pas forcément quelque chose de tout à fait visible. C'est, pour l'instant, c'est, Marie, elle gagne du terrain dans les cœurs. Ça se fait dans les cœurs. C'est comme au Mont-Saint-Michel, la mer, elle monte par en dessous, on la voit pas arriver, puis tout d'un coup, elle est là. Et Marie, elle gagne du terrain dans les cœurs. Pourquoi ? Son but, c'est pas elle, c'est son fils. Hein ? Et donc, le Mgr Wilitza, il a dit, le triomphe du cœur immaculé de Marie, ça va être le triomphe de la miséricorde et de l'Eucharistie sur le monde. Et voilà, nous sommes tellement pauvres, nous, des rescapés de la miséricorde sans arrêt, mais nous ne pouvons que glisser notre petit totus tuus dans le grand totus tuus du saint pape et prophète Jean-Paul II. Et là, il y a, c'est magnifique que quand vous arrivez à l'adoration, rendez-vous compte, vous arrivez devant le trône de l'agneau. C'est le même trône où se tiennent jour et nuit tous ceux qui sont déjà là, toute cette foule immense des martyrs et des témoins avec Marie. Et je crois que on a encore 5 minutes. Alors, ce que j'ai vu, une des choses que j'ai vu de plus beau aussi à Prague, le 1er janvier 91, c'était donc un an après la chute du communisme. 80 000 personnes en prière dans la ville de Prague, c'était la première rencontre de Thésée. Alors, le résultat des courses, vous voyez, dans un pays où pendant 50 ans, on a tout fait pour empêcher les gens de croire, non seulement des cours d'athéisme obligatoires, des cours de marxisme obligatoires, mais aussi des cours d'athéisme dans les écoles, dans les universités, partout, eh bien, le résultat, c'était 80 000 jeunes et moins jeunes en prière. Et ce matin-là, dans la cathédrale de Prague, nous étions serrés comme des sardines et il y a eu le vieux cardinal Tomášek au bras de frère Roger de Thésée qui sont arrivés. Et les mots sont trop pauvres pour vous dire, mais c'était cette proximité de la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, elle est là à chaque fois que vous êtes devant le Saint-Sacrement. Hein. C'est la même, c'est le même Jésus. C'est... Et alors, tout d'un coup, frère Roger a dit, ce matin, j'ai parlé avec un jeune d'Estonie qui m'a dit, si nous sommes ici, c'est grâce à nos grands-mères. Nous voudrions qu'elles soient ici avec nous. La plupart ont été déportées en Sibérie. Certaines sont mortes martyrs, d'autres sont revenues. Elles sont transparentes, ce sont des saintes. Et vraiment, quand frère Roger racontait ça, le ciel était ouvert au-dessus de nos têtes. Et c'était pas une illusion, les grands-mères, elles étaient là, quoi. Et puis toute cette foule immense, cette foule de l'Apocalypse hein, qui se trône devant le trône de l'agneau. Et ce verset de psaume, c'était comme si nous envoyions les prémices qui s'accomplissaient. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Vous imaginez tous ces martyrs, tous ces millions de morts dans les goulags qui voyaient le fruit de leur martyr, 80 000 personnes en prière, qui étaient venues de tous les autres pays d'Europe de l'Est. Ces pays prisons qui commençaient à ouvrir leurs frontières et beaucoup de gens n'avaient jamais pu sortir de leur pays. J'ai vu une Lituanienne qui pleurait en disant à frère Roger, mais nous on n'a jamais pu, l'église on y croyait, mais on ne pensait jamais vivre ça un jour. On a toujours été obligés de fermer nos volets pour se cacher, pour prier. On ne pensait jamais être là avec 80 000 personnes en prière. Et donc c'est ce splendide trésor de l'église. Notre paroisse, notre église incarnée, c'est très important là où nous sommes. Mais vous voyez, nous sommes aussi reliés, aussi concrètement, réellement, avec des milliers de gens, avec tout le peuple de Dieu répandu sur la terre, que nous ne verrons qu'au ciel. Mais Jésus a autant besoin de notre offrande cachée. Il s'en sert. Vous ne pouvez pas imaginer le parfum que vous répandez peut-être en ce moment au Nigeria sur des victimes de Boko Haram ou pour consoler les gens qui ont perdu leurs enfants à Paris. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on rayonne dans l'invisible. Mais quand on en a marre, ouvrons-nous à cette grâce du Saint-Esprit pour savoir que il fait quelque chose de magnifique avec nos vies et réjouissons-nous de ce que ce soit caché à nos yeux quand il nous en donne des signes. C'est pas parce qu'on le mérite. Moi, c'est parce que je suis une petite bourrique, donc il était obligé de temps en temps, pour pas me laisser râler, me donner des signes. Mais il vous donne aussi des signes en proportion de ce que vous avez besoin. Et il nous rassemble pour que on soit comme une seule hostie à sa gloire, façonnée entre les mains de Marie, cachée dans le cœur de Marie.